Bonjour, bienvenue sur Présence. Nous sommes en milieu de semaine, il est midi et j'ai plein d'émissions pour vous. Comme l'interview d'Isabelle Honnel avec le père Pierre Amard, le prêtre du diocèse de Versailles nous a offert un aperçu de la conférence qu'il viendra donner lundi 12 octobre prochain. C'est dans moins de 10 minutes. L'agenda du diocèse avec Emmanuel Pella, c'est dans 20 minutes dans Église Actualité. Le tour des diocèses, il y a beaucoup de diocèses, avec Isabelle Honnel. Et nous allons prendre des nouvelles de Toulouse dans une trentaine de minutes. Bien évidemment, votre chronique, l'air du temps, comme tous les mercredis, avec le sujet « Tous frères, c'est en fin d'heure ». Juste avant, les titres, oui, tout à fait, les titres dans l'Occitanie avec Luc Vidal-Giraud. Bonjour Luc.
C'est l'inquiétude de cette fin d'année. Quelles seront les conséquences économiques à moyen terme de l'actuelle crise sanitaire ? Elles sont déjà palpables. Entre perte d'emploi et chômage partiel, l'Occitanie a perdu près de 46 000 postes au cours du premier semestre. Outre l'aéronautique, les secteurs les plus touchés sont ceux de l'hébergement et de la restauration. L'Agence régionale de santé a présenté hier son bulletin bi-hebdomadaire sur la crise sanitaire en Occitanie. 15 décès supplémentaires ont été recensés en 4 jours. Les hospitalisations sont pour leur part en hausse dans la région avec 45 patients supplémentaires depuis le 2 octobre, dont 7 en réanimation. Nous l'annoncions il y a quelques jours, une vaste campagne de tests de vaccins vient d'être lancée en France. 25 000 volontaires sont en cours de recrutement. Le centre d'investigation clinique du CHU de Toulouse en accueillera un peu plus d'une centaine pour une campagne d'évaluation prévue entre novembre prochain et mars 2021. Airbus a dévoilé hier son nouvel avion d'affaires basé sur l'A220. L'appareil pourra parcourir une distance de 10 500 km et accueillir jusqu'à 18 passagers. 6 exemplaires de l'appareil ont déjà été commandés. La TOM des Pyrénées au lait cru vient d'obtenir le label IGP, indication géographique protégée. Cette labellisation intervient 25 ans après celle obtenue par la TOM au lait de vache pasteurisé produite, elle, par des industriels. La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivité territoriale était en visite dans le Gers. Jacqueline Gouraud y a rencontré le comité local France Relance et évoqué son projet de loi 3D comme décentralisation, différenciation et déconcentration. Bisbille entre les deux principaux opérateurs de ski dans les Pyrénées. Le groupement NP demande l'annulation devant le tribunal administratif de Pau de l'avenant qui prolonge la délégation de service public de la station de Saint-Lary au bénéfice d'Alti Service, et ce, pour une durée de 15 ans. Et puis l'équipe de football de Luznac en Ariège aurait pu accéder à la Ligue 2. Telle est la décision rendue hier du Conseil d'État. Il a confirmé la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux de juin 2019 qui annulait la décision du Conseil d'administration de la Ligue professionnelle de football qui empêchait le Luznac Ariège-Pyrénées d'accéder à la Ligue 2.
Merci Luc, on te retrouve dans une demi-heure pour un point sur l'info. Bon appétit Luc.
La météo.
Pour cet après-midi, retour du soleil avec quelques nuages à 17 degrés en moyenne dans notre partie d'Occitanie. Demain matin, le même temps, mettez quand même une petite laine. Il ne va pas faire très chaud, 11 près du boulevard Gambetta à Cahors dans le Gers, ainsi qu'au parc Bel Air à Tarbes, 12 dans le Tarn-et-Garonne et près de la rue Saint-Rome à Toulouse. L'après-midi, des éclaircies dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Le mercure montera jusqu'à 20 degrés dans le Lot, ainsi qu'en haut de l'escalier monumental de Hoche et dans la Haute-Garonne. Garonne, 21 pour les Hautes-Pyrénées et un petit 16 degrés au viaduc de Millau.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Sur Présence, on parle adoration avec vous Isabelle.
Le dévorer des yeux, c'est le thème de la conférence sur l'adoration que vient donner à Toulouse le père Pierre Amard. Il est prêtre du diocèse de Versailles, très présent sur les réseaux sociaux. Il officie aussi sur le site Padre Blog. Bonjour père.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Ah, bel enthousiasme. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. La conférence dont on parle a lieu le 12 octobre. C'est au sanctuaire Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, où l'adoration perpétuelle est proposée depuis presque 8 ans. Vous en êtes la responsable, Marie. Bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. Bonjour mon père.
Marie, vous avez 50 ans, vous avez 5 enfants. Merci d'être avec nous, vous aussi. Alors, adorez. Pourquoi adorer, pour qui et surtout comment? On va voir ça tous les trois ce matin. Alors, je me suis penchée sur mon dictionnaire, il n'a pas été très bavard sur le mot adoration, action d'adorer, amour ardent pour quelqu'un. Père Amard, c'est quoi votre définition à vous? On fait quoi quand on adore?
Ah, écoutez, cela tient d'un ami moine qui fait, lui, 2 heures d'adoration par jour. Vous vous rendez compte? Et donc, un matin, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais pendant ces 2 heures? Ça revient tous les jours. Il me dit, moi, je fais rien. Ah, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais alors? Il me dit, je bronze. Et j'ai trouvé ça excellent. Parce que, en plus, que vous savez qu'à l'adoration, l'objet dans lequel on met l'hostie consacrée, hein, Jésus présent dans l'Eucharistie, ça ressemble à un soleil. Donc, c'était très bien vu. Mais vous voyez, il ne fait rien, il bronze. Donc, j'ai envie de dire, ben, venez vous exposer au soleil de Dieu, venez bronzer en sa présence, et vous allez voir, ça va créer en vous des effets, ça va vous changer, ça va nous changer.
Alors, vous parlez de bronzer et de l'hostie dans un soleil. De fait, l'adoration suppose qu'on se mette en présence. En quoi est-ce différent, Père Amar, de la prière, seul dans sa chambre, devant une icône?
C'est très juste. C'est-à-dire que l'adoration n'est pas une action. Vous savez, souvent dans ce monde, on a envie de faire des choses, on a envie d'aligner les résultats, on a envie de faire. C'était l'évangile d'il y a quelques jours entre Marthe et Marie. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Si.
On a envie toujours de... Voilà. Puis ce monde moderne nous pousse à ça. Eh bien, l'adoration, ce n'est pas du faire, c'est de l'être. C'est-à-dire, je suis là devant Dieu, je ne lui dis rien, je l'aime. Juste ça. Et c'est énorme. Ça touche son cœur, c'est évident.
Et que vient changer cette présence, la présence?
Oui, bien sûr, c'est-à-dire que je regarde le Seigneur présent dans son Eucharistie, mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que le Seigneur me regarde. Vous savez, on a souvent peut-être trop l'habitude de tout mettre de notre côté à nous, mais mettez-vous à la présence du Seigneur, il est sur l'autel, il est présent, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens de tous les âges, de toutes les sensibilités, de toutes les conditions, qui viennent passer un moment avec lui, un moment de cœur à cœur, de face à face, et ça c'est évident que ça a des conséquences. Alors évidemment, c'est dans l'ordre de la foi, c'est-à-dire que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, mais ça produit des choses tout à fait évidentes et qui en rendent des conséquences dans notre journée. Quelqu'un qui adore tous les jours, c'est quelqu'un qui aime son prochain, c'est quelqu'un qui est plus patient, c'est quelqu'un qui est rempli d'amour. Évidemment, pourquoi? Parce qu'il a fréquenté le Dieu d'amour pendant un instant.
Il y a un retour sur investissement alors, hein, c'est ça que vous nous dites.
C'est ça, un retour sur investissement.
Du temps passé. Non, sans blague, Père Amar, évidemment, je vous taquine. L'adoration, vous nous dites, ce n'est pas de l'ordre du faire, c'est de l'ordre de l'être. Ça sert à quoi?
Quand on passe du temps avec quelqu'un qu'on aime, et je m'adresse à nos auditeurs qui sont mariés ou fiancés ou tout simplement amoureux, qu'est-ce que ça produit? Rien dans l'ordre immédiat, c'est-à-dire que on est juste là ensemble, on s'aime, on partage un moment, mais ça remplit le cœur, évidemment, quand on est avec l'être. Mais d'ailleurs, souvent, on n'a pas trop envie, enfin, mon expérience dans ce domaine est très limitée, mais quand je vois les amoureux, souvent, moi, je vois qu'ils ne se disent pas grand-chose, ils sont là ensemble, ils se prennent par la main, ils s'embrassent, ils sont contents, ils sont bien, ils sont heureux d'être ensemble. Mmh. C'est exactement ce qui se passe dans l'adoration. Mmh. On est heureux d'être avec Dieu, qui est la source de tout amour. Vous savez, on passe nos journées à remplir nos appareils, à charger nos portables, à faire le plein de nos voitures, à remplir nos frigidaires. Mais quand est-ce que le cœur humain, il se remplit? Quand est-ce qu'il fait le plein d'amour et de bonté? Et en fréquentant le Dieu d'amour, tout simplement. Et ça se passe à l'adoration.
Alors vous dites, les amoureux sont heureux, certes, face à l'hostie consacrée, fut-elle dans un soleil, comme vous nous l'avez dit, on est heureux, on s'endort un peu parfois tout de même, non?
Je vois
Marie qui a l'air de sourire à ça. Elle acquiesce,
oui.
Marie.
Oui.
On s'endort, Père, on non peut... Marie aussi.
Oui. Allez-y, Marie, allez-y.
Il y a certaines heures d'adoration où... C'est, je ne sais pas si c'est un instant de grâce, on ne voit pas l'heure passer. On se dit, super, j'ai dû faire une super adoration. Et d'autres heures où toutes les 5 minutes, on s'interroge sur sa montre, on se demande si elle est arrêtée, on se demande comment ça peut être aussi long et poussif. Effectivement.
Et où on a l'esprit qui part aussi, non?
Oui, où on s'endort, mais quand le Seigneur a demandé à ses disciples de venir avec lui, il ne leur a pas dit « venez prier », il a dit « venez veiller avec moi ». Je ne sais pas comment ça va être calculé, on n'en sait rien. En tout cas, on donne de son temps, et le temps c'est quelque chose de précieux. Alors il y en a qui en ont trop, moi je vois dans le cadre de l'adoration, c'est souvent des personnes âgées, mais il n'y a pas que les personnes âgées qui ont trop de temps. Et il y a ceux qui n'en ont pas assez, qui courent après. Et ceux qui courent après, qui me disent « je ne vais pas avoir le temps de prendre une heure », c'est quand même une heure par semaine qu'on demande aux personnes de donner. Une heure par semaine qui se répète le même jour, au même moment, toutes les semaines, de façon un peu inexorable. Sauf qu'on a quand même des remplaçants qui peuvent les soulager. Mais ça me fait penser à ces personnes. Je leur rappelle ce que Mère Teresa disait à ses sœurs quand elle disait oh, « On est bousculés, il y en a qu'on n'a pas pu soigner, il faudrait qu'on fasse plus, il faudrait qu'on fasse moins peut-être de prières. » Et elle disait « Pas question. » C'est justement quand on est débordé, c'est justement quand on est bousculé, qu'on manque de temps, que la priorité des priorités, c'est d'aller à la source. Et je rejoins tellement les propos du père Amar quand il parlait de deux amoureux. Deux amoureux, ils ne se parlent pas forcément tout le temps.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi, l'un et l'autre, hein ? Il ne faut pas chercher l'utilité, hein, père, vous êtes d'accord avec ça, hein ?
C'est ça. C'est-à-dire que si on veut calculer, si on veut sentir, on risque de faire fausse route. Souvent, la relation de foi est loin de toute sensibilité, de tout sentiment. Tant mieux si on sent des choses, mais souvent... On ne sent pas grand-chose, on est juste là, on sait que Dieu nous aime et ça suffit. Et sur ce que disait Marie, sur le fait de dormir ou de somnoler, je vous avoue, hein, moi ça m'est arrivé aussi.
Ah.
Mais écoutez, les parents qui ont des enfants, des petits bébés, et qui de temps en temps ont la chance merveilleuse, je ne sais pas moi, d'avoir un petit enfant qui s'endort dans leurs bras, ne sont-ils pas heureux, tous ces parents ? Et c'est un peu pareil avec le Seigneur. Si vous dormez, vous ne pouvez pas le faire, mais enfin, si vous somnolez parce que vous êtes d'adoration, je ne sais pas moi, de 2h à 3h du matin, mais vous dormez dans les bras du Seigneur, écoutez, il y a pire hein, comme sort, hein, c'est génial de somnoler en présence de Dieu.
Et en quoi ça lui fait plaisir à Dieu qu'on soit là ? C'est quelque chose que vous aviez l'air de dire, Père Amar. Qu'est-ce qui vous fait dire ça et pourquoi ça lui fait plaisir ?
C'est la parole à la Samaritaine. Vous savez, lorsque le Christ est au puits de Jacob, il lui dit « Un jour viendra, mon Père et moi, nous voudrons des adorateurs en esprit et en vérité. » C'est très juste. C'est vraiment, en fait, cette parole, elle est prophétique. Elle est pour les chrétiens des siècles suivants et puis pour nous encore aujourd'hui. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui veulent juste passer du temps avec lui, l'adorer, le contempler, lui dire librement qu'ils l'aiment et qu'ils veulent le suivre. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Une relation d'amour, c'est ça, tout ça. Il ne cherche que ça.
Juste être là.
Exactement.
Et ça, Jésus nous le dit dans l'Évangile. À quel moment on se souvient, on connaît tous le moment où il nous dit, où il nous apprend le Notre Père. À quel moment il nous convie à l'adoration ? Moi, j'avais le sentiment que c'était une pratique assez récente, l'adoration, qui revient en tout cas.
Je ne suis pas certain de ce que vous dites. Alors bon, pour l'Évangile, je vous l'ai dit, hein, c'est la scène de la Samaritaine. On veut des adorateurs. Mon Père et moi cherchons des adorateurs en esprit, en vérité. Sur l'adoration elle-même, peut-être qu'il y a un essor de l'adoration eucharistique dans les paroisses, et je m'en réjouis, mais ça a toujours existé. Non, il y a toujours eu... Moi, j'ai été curé récemment à une paroisse où il y avait 17 clochers. Dans les 17 clochers, il y avait un ostensoir, hein, ce fameux soleil dont on a parlé au début. Ça veut dire que pendant des décennies, des siècles, on a adoré le Seigneur présent. Alors, ça se faisait souvent le dimanche, avant les vêpres ou après les vêpres, ou alors le premier vendredi du mois. Moi-même, dans ma propre paroisse ici, dans le diocèse de Versailles, on a l'adoration tous les premiers vendredis du mois, et puis le soir. Et je vois bien qu'il y a du monde. Et on est assez étonné d'ailleurs, des gens de un peu de toutes les générations, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, selon les horaires évidemment, mais ça, Marie peut-être nous en dira plus.
Et oui.
Il y a plus ou moins telle ou telle catégorie, mais on sent que ça parle aux gens qui veulent donner du temps.
Et oui, Marie, je vous vois opiner de fait. Hein, depuis 8 ans, l'adoration perpétuelle est proposée à l'église Saint-Jérôme à Toulouse. Vous en êtes, Marie, la respadore, je crois. C'est comme ça qu'on vous appelle, la responsable de l'adoration. Perpétuelle, ça veut dire que ça ne s'arrête jamais ?
Alors, c'est un vœu. C'est-à-dire qu'elle a été à un moment perpétuelle, au tout début. Et hélas, la chaîne s'est rompue. Ce sont les heures de nuit qui sont les plus difficiles à assurer. Et qui sont...
Mais grâce à l'émission de Radio Présence ce matin, ça va repartir très fort.
On y croit.
Je voudrais parler un petit peu de chiffres, même si ce n'est pas très intéressant. L'adoration perpétuelle compte 300 inscrits, dont les remplaçants.
300 tout de même. Hein.
300. Et il suffirait de 168 personnes pour avoir nos 24 heures pendant 7 jours.
Ah ben on va
les
trouver.
On ne les a pas. Parce qu'en fait, effectivement, les heures de nuit ont été, ces dernières années, assurées par des étudiants ou pas mal de pères de famille aussi. Et les étudiants, on le sait, sont extrêmement mobiles. Et au gré des stages ou de leurs études, on les perd. Ils ne sont pas faciles à capter. C'est un public qui est difficile à capter. Sauf que quand ils le sont adorateurs, effectivement, c'est aux heures, entre guillemets, les plus difficiles. la nuit, parce qu'on est tenté par déjà la difficulté de se lever. C'est pour ça que quand je prends des inscriptions à l'adoration, à chaque fois, je fais attention au tempérament des gens. Je leur dis attention, est-ce que vous êtes plutôt du matin,
plutôt du soir?
Parce que c'est compliqué, en fait. C'est déjà compliqué en soi, même si c'est merveilleux, et si on est heureux, et si on a des grâces qui ne sont pas forcément perceptibles et pas forcément sensibles, comme le disait le père Amarfort. Effectivement, ça, c'est pas de l'ordre du sentiment, en tout cas pas toujours. C'est pas la peine de se contraindre. Si on est du matin, c'est pas la peine de venir de 2h à 3h du matin. Il vaut mieux venir tôt.
Pardon. Alors, vous avez parlé d'étudiants, vous avez parlé de retraités, donc on a l'impression que vous avez tout l'éventail des possibles. C'est quoi le...
Exactement.
Il n'y a pas un profil d'adorateur, il y a tout le monde.
Il n'y a pas un profil d'adorateur. Les dames âgées viennent plutôt le matin vers 11h, parce qu'ensuite elles enchaînent sur la messe, ou après la messe en début d'après-midi, ou après la sieste, enfin ça dépend un petit peu. Non, il y a de tout, ça va de 15 ans à 99 ans.
Est-ce qu'il faut avoir une foi très 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 forte ou être très calé en théologie?
Alors là, non. En fait, ce qu'il faut, c'est vouloir donner de son temps, être avec lui. C'est ce que disait un paroissien du curé d'Ars qui lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais?
Il disait,
il m'avise et je l'avise. C'est juste ça, c'est juste donner de son temps. En fait, c'est ce qu'on a de plus précieux, j'ai l'impression, dans cette course folle au temps. Et donc, il n'y a pas de niveau requis, il y a de tous les genres dans nos adorateurs, véritablement.
Et il manifeste ce besoin de se retrouver, évidemment, près de Dieu, hein, on peut l'imaginer. Vous-même, Marie, ça fait 8 ans que vous êtes la responsable de ce qui est proposé à Saint-Jérôme, à Toulouse. Est-ce que vous pourriez vous en passer de ce créneau? C'est une heure d'adoration, hein, c'est ça?
Alors, c'est une heure. C'est une heure. Est-ce que je pourrais m'en passer? Je pourrais me laisser glisser. Oui, bien sûr, je pourrais m'en passer.
C'est un effort tout de même.
C'est quand même un effort. Je pourrais m'en passer, mais je crois que ça ne durerait pas très longtemps. C'est l'expérience que l'on fait pendant les vacances. Parfois, on fait, entre guillemets, une trêve, parce que faute d'adorateur, justement. Et en fait, ça crée chez tous, d'abord, une espèce de, entre guillemets, soulagement, en tout cas pour certains. Et ensuite, ça crée une appétence, en fait. C'est-à-dire, on se dit, mais pourvu que ça ne dure pas, quoi, il faut vraiment reprendre.
C'est comme un muscle, en fait. On travaille et
c'est
puis...
ça. C'est ça, exactement. C'est que sur la première semaine, disons, ou les deux premières, on se dit... ça fait une pause quand même, mais ça crée une envie qu'il faut ensuite assouvir, et je pense que les adorateurs, ce que je dis fera écho chez les adorateurs.
Père Amar, ma dernière question, on l'a compris, hein, vous nous avez beaucoup parlé de cette métaphore avec le petit enfant qui s'endort. À vous entendre, c'est presque facile et léger, pour autant parfois c'est compliqué. Est-ce qu'il faut se forcer? Est-ce qu'il y a quand même un acte de besogneux dans cette affaire-là?
C'est-à-dire, comme dans toute action, il faut notre liberté entre en compte, il faut que je décide d'aller adorer. Mais j'ajoute peut-être une chose, vous savez, à l'heure où on passe des moments, mais des soirées entières, parfois même de façon un peu indue, devant nos écrans, à regarder des choses pas toujours très intelligentes, oui. Je me dis, est-ce que l'adoration ne serait pas un moyen de racheter le temps perdu, vous voyez, pour toutes ces minutes, ces heures que j'ai volées à mon prochain, à Dieu, à regarder des choses, je dis parfois sans intérêt. Est-ce que je ne pourrais pas tout simplement aller adorer, regarder le Seigneur, me remplir de sa présence? Je suis sûr que ça aura beaucoup plus d'effet que regarder des choses pas toujours très intelligentes sur Internet, en tout cas sur nos écrans qui sont en train de nous dévorer jour après jour.
Eh ben merci beaucoup à tous les deux. 168, on l'a compris, c'est le nombre de personnes qu'il vous manque. Marie, joint les mains en forme de pitié, pitié. Alors si vous êtes intéressé pour venir rejoindre Marie et ses troupes, il y a un mail, c'est adoration.toulouse@gmail.com. Ainsi, l'adoration perpétuelle fonctionnera à Saint-Jérôme à Toulouse. Le dévorer des yeux, c'est la conférence qui a lieu lundi 12 octobre prochain, la vôtre, Père Pierre Amar, c'est à 18h. À Saint-Jérôme, c'est dans l'église, aux 2 rue du colonel Pellissier à Toulouse, lieutenant-colonel. Et puis, Père Amar, après l'adoration, vous allez enchaîner, lundi, ça va être une grosse journée.
Oui.
Vous allez enchaîner, ça va être une grosse journée pour vous. Autre conférence, cette fois, c'est à l'invitation des AFC, et autour de votre livre, on aura peut-être un autre jour l'occasion d'en parler, il s'intitule « Hors service », et c'est sur le thème « La force de la fragilité », c'est donc également lundi, cette fois à l'église du Christ-Roi, à 20h30, l'entrée est libre. Un immense merci de nous avoir donné de votre temps aussi ce matin.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée, au revoir.
Église Actualité arrive dans moins de 2 minutes, juste après Grégoire sur votre radio chrétienne.
Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. notre rêve. Partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez, regardez là-bas l'horizon briller. Loin, toujours plus loin, partez en chantant, le monde appartient à ceux qui n'ont rien.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Église Actualité, Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, à Saint-Sulpice et Rabastens, la paroisse de Rabastens organise la conférence « D'où vient l'argent des cathédrales ?» conférence qui sera donnée par le père Georges Passera, professeur d'histoire de l'Église. Rendez-vous à 15h au centre paroissial de Saint-Sulpice et à 20h30 au centre paroissial de Rabastens. Demain à Auch commencera un parcours alpha couple organisé par le diocèse d'Auch. Les parcours couple et parcours alpha sont destinés à tous les couples mariés ou vivant ensemble depuis plus de 2 ans pour les aider à construire ou raffermir leur relation, consolider leur amour. Selon les mots des organisateurs, rendez-vous à 20h à l'espace Bethesda à Auch. Demain également à Cahors, l'association des Amis de l'Orgue de la cathédrale de Cahors organise le concert vocal Hildegard von Bingen avec les voix d'Isabelle Belleg et de Geneviève Foucroul et Jeanne Willem Janssen à l'Orgue. Rendez-vous à 20h30 à la cathédrale de Cahors. Ce samedi 10 octobre à Brive, à Rocamadour, les associations familiales catholiques AFC organisent le 17e pèlerinage des mères de famille. Cette année, le thème proposé est l'espérance à l'école du cardinal Van Thuan, grande figure de l'église vietnamienne. Pour tout renseignement, un site internet www.cahors.catholique.fr. Ce samedi 10 octobre également, à Rodez, le diocèse de Rodez et Vabre propose la journée de rentrée du parcours Théophile, un parcours de formation en partenariat avec l'Institut catholique de Toulouse, proposé à tous les fidèles du diocèse et à tous les curieux. Rendez-vous à 10h ce samedi 10 octobre à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez. Enfin, ce samedi 10 octobre toujours, à Issandolus commenceront 2 jours de festivités organisées par le diocèse de Cahors à l'occasion de la fête votive de Sainte-Fleur. Au programme, temps de prière, conférences et temps festif. À noter la conférence sur la vie de Sainte-Fleur le samedi soir à 20h30 en l'église Saint-Julien d'Issandolus. Pour tout renseignement sur ces 2 jours de festivités, un site internet www.cahors.catholique.fr.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com. Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
L'essentiel de l'actualité dans notre partie d'Occitanie en ce mercredi à 7 octobre, c'est avec Luc Vidal-Giraud.
Bonjour à tous. C'est l'inquiétude de cette fin d'année. Quelles seront les conséquences économiques à moyen terme de l'actuelle crise sanitaire? Elles sont déjà palpables. Entre perte d'emploi et chômage partiel, l'Occitanie a perdu près de 46 000 postes au cours du premier semestre. Outre l'aéronautique, les secteurs les plus touchés sont ceux de l'hébergement et de la restauration. Pour ces entreprises directement impactées par les mesures de restriction liées au coronavirus, l'URSSAF a décidé de mettre en place des nouvelles mesures. Le report des cotisations patronales et salariales à échéance du 5 ou du 15 octobre est possible sans aucune demande préalable pour les entreprises fermées définitivement, comme les salles de sport, les discothèques, les salles des spectacles et les festivals, et avec une demande préalable pour les entreprises fermées partiellement, comme les bars et les restaurants. Un mini-site internet a été mis en place pour accompagner les demandeurs, www.mesures-covid. L'Agence régionale de santé a présenté hier son bulletin bi-hebdomadaire hier sur la crise sanitaire en Occitanie. 15 décès supplémentaires ont été recensés en 4 jours. Les hospitalisations sont pour leur part en hausse dans la région, avec 45 patients supplémentaires depuis le 2 octobre, dont 7 en réanimation. Au total, 491 personnes sont hospitalisées en Occitanie, dont 136 en réanimation. Nous l'annoncions il y a quelques jours, une vaste campagne de tests de vaccins vient d'être lancée en France. 25 volontaires sont en cours de recrutement. Le centre d'investigation clinique du CHU de Toulouse en accueillera un peu plus d'une centaine pour une campagne d'évaluation prévue entre novembre prochain et mars 2021. Le centre de Toulouse prévoit de se positionner sur 2 candidats vaccins pour des essais de phase 3, c'est-à-dire des essais d'évaluation de l'efficacité du produit après ceux qui ont établi la tolérance et le dosage. La phase 3 permet de vérifier en fait qu'on n'attrape pas le Covid-19 après la vaccination. Les profils recrutés sont variés, des jeunes en bonne santé, mais aussi des personnes que le vaccin doit protéger de la Covid-19, et notamment des personnes de plus de 60 ans avec des facteurs de comorbidité comme l'obésité ou encore l'hypertension artérielle. La responsable du centre d'investigation clinique du CHU de Toulouse, le docteur Claire Talamas, précise que les volontaires retenus seront surveillés 1 à 2 heures après la vaccination, puis de manière régulière par des visites et des questionnaires pendant une année. Airbus a dévoilé hier son nouvel avion d'affaires basé sur l'A220. L'appareil pourra parcourir une distance de 10 500 km et accueillir jusqu'à 18 passagers. 6 exemplaires de l'appareil ont déjà été commandés. L'avionneur européen a annoncé que les premiers appareils seraient prêts à voler début 2023. Désigné repreneur de l'Institut BVA par le tribunal de commerce de Toulouse, puis bloqué par la cour d'appel, le fonds Alcentra veut séduire et rassurer les 1800 salariés de l'entreprise, dont 500 sont basés à Toulouse. Elle aura dans ce sens adressé une lettre ouverte. Alcentra y rappelle ses ambitions pour l'entreprise toulousaine et écarte toute intention de délocalisation des emplois à l'étranger. La cour d'appel doit auditionner les 4 candidats potentiels à une reprise effective d'ici la fin de l'année ou au plus tard au début d'année 2021. Elle est de forme cylindrique, présente 2 faces planes avec des bords arrondis, sa pâte est souple et sa texture plus ou moins fondante selon sa maturité. Je suis la tome des Pyrénées au lait cru, bien sûr. Cette dernière vient d'obtenir le label IGP, indication géographique protégée. Cette labellisation intervient 25 ans après celle obtenue par la tome au lait de vache pasteurisée, produite, elle, par des industriels. Portée par les fromagers fermiers et fabricants artisanaux qui souhaitent voir reconnaître leur savoir-faire, l'Association des fromagers pyrénéens a obtenu de la Commission européenne la modification du cahier des charges. Désormais, toutes les tomes des Pyrénées peuvent bénéficier de ce label IGP et non plus les seuls fromages au lait pasteurisé. C'est la reconnaissance de toute une filière au cœur des Pyrénées, de l'Ariège aux Pyrénées-Atlantiques en passant par Haute-Garonne et Haute-Pyrénées. Pour mémoire, la production annuelle de 2500 tonnes de tomes au lait pasteurisé est fabriquée par 3 entreprises. Pour le fromage au lait cru, 500 éleveurs fournissent le lait à 350 producteurs fermiers et une dizaine d'entreprises artisanales produisant également environ 2500 tonnes. La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales en visite dans le Gers, Jacqueline Gourault, y a rencontré le comité local France Relance et évoqué son projet de loi 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration. Il s'articule autour de 4 piliers majeurs que sont la transition écologique, le logement, le transport et le domaine de la santé et des solidarités. Côté calendrier, il est prévu que le projet final de cette loi 3D soit examiné par le Parlement au premier semestre 2021. Bisbille entre les 2 principaux opérateurs de ski dans les Pyrénées. Le groupement ANP demande l'annulation devant le tribunal administratif de Pau de l'avenant qui prolonge la délégation de service public de la station de Saint-Lary au bénéfice d'Altiservice pour une durée de 15 ans, soit de 2024 à 2039. Attention, si vous aviez prévu de prendre le train à Toulouse mi-octobre, il n'y en aura plus aucun du 17 au 20 octobre. La SNCF s'apprête en effet à ouvrir un chantier de taille, un chantier qui concerne la modernisation du système de commande des aiguillages. Il faudra en à peine plus de 2 jours intégrer 7 postes d'aiguillage datant des années 70 à un nouveau poste de commande centralisé. Ce chantier nécessitera l'arrêt total de la circulation des trains pendant la période concernée, le temps de procéder à la bascule des postes informatiques ainsi qu'aux essais sur les postes d'aiguillage. Pendant ces 2 jours, aucun train ne circulera entre Toulouse et les villes de Muret, Haute-Rive, Castelnaudary, Saint-Sulpice, Montauban, Saint-Cyprien à Rennes. Pour pallier cette interruption, des bus de substitution seront mis en place. L'équipe de football de l'USNAC en Ariège aurait pu accéder à la Ligue 2. Telle est la décision hier du Conseil d'État. Il a confirmé la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux de juin 2019 qui annulait la décision du conseil d'administration de la Ligue de football qui empêchait le Luznac Ariège-Pyrénées d'accéder à la Ligue 2. La procédure est close au terme de 6 années de rebondissement et il n'y a donc plus d'appel possible. Le président du club, qui évoque une situation rocambolesque jamais arrivée dans l'histoire du football français, entend maintenant faire valoir ses droits et évoque la possibilité de demander que le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel se réunisse pour statuer sur la montée de l'Uznac. Ce que je veux aujourd'hui, conclut le président, c'est qu'on reconnaisse officiellement qu'on avait raison et je demande qu'on se mette autour d'une table pour que nous puissions trouver un accord. Fin de citation.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour le rappel des titres.
La météo.
Pour cet après-midi, retour du soleil avec quelques nuages à 17 degrés en moyenne dans notre partie d'Occitanie. Demain matin, le même temps, mettez quand même une petite laine. Il ne va pas faire très chaud, 11 près du boulevard Gambetta à Cahors dans le Gers, ainsi qu'au parc Bel Air à Tarbes, 12 dans le Tarn-et-Garonne et près de la rue Saint-Rome à Toulouse. L'après-midi, des éclaircies dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Le mercure montera jusqu'à 20 degrés dans le Lot, ainsi qu'en haut de l'escalier monumental de Hoche et dans la Haute Garonne, 21 pour les Hautes-Pyrénées et un petit 16 degrés au viaduc de Millau. C'est l'heure de votre émission Le Tour des Diocèses. Aujourd'hui, là où il y a les plus belles briques roses du monde, c'est en Occitanie.
Radio Présence à Toulouse, 97.9.
Eh ben, nous allons prendre des nouvelles du diocèse de Toulouse ce matin avec une nouvelle voix. C'est Flamine Favret qui est avec nous. Bonjour Flamine.
Bonjour Isabelle.
Alors, quelles sont les dates à retenir pour la quinzaine, pour le diocèse de Toulouse, Flamine?
Alors, dimanche prochain, le 11 octobre, ce sera vraiment une grande joie pour l'église diocésaine, puisqu'un nouveau diacre va être, un diacre permanent, va être ordonné en l'église de la Dalbade. Alors, il s'appelle Guy de Bélair et il sera au service de l'ensemble paroissial d'Aucanville-Saint-Loup-Camas.
Et alors, vous allez peut-être en profiter, Flamine, pour nous rappeler ce qu'est un diacre permanent. C'est quoi sa mission?
Oui, alors, être diacre, c'est d'abord être au service de l'Église. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il est configuré au Christ, mais non pas comme le bon pasteur, mais comme Jésus, vous savez, qui, au soir du Jeudi Saint, s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Voilà, alors on peut penser également à cette phrase de Jésus qui dit « Je suis venu pour vous servir », comme on le voit dans les évangiles de Marc et Matthieu. Et puis le pape François a une belle image, il parle du gardien du service dans l'Église. Voilà, donc des services dans cette mission, il y en a trois, c'est celui de la parole, celui de l'autel et celui de la charité.
Voilà, du boulot donc pour Guy de Bélair, le nouveau diacre permanent. Vous allez peut-être nous dire trois mots pour nous le présenter, cet homme-là?
Oui, alors il a 63 ans, il est marié à Marie-Madeleine et père de 2 enfants. Il est originaire de Nantes, mais ça fait 30 ans maintenant qu'il vit dans notre région toulousaine. C'est un jeune retraité qui a été professeur d'histoire-géographie et également documentaliste dans l'enseignement public. Mmh. Voilà, il a longtemps été engagé dans l'Église, qu'il a toujours aimé servir. Il a notamment été investi dans la communauté de l'Emmanuel, auprès des couples et des enfants, avec amour et vérité. Également au sein de Foi et Lumière, auprès des personnes handicapées. Et puis, il a un goût prononcé pour le chant, et notamment, il a conduit le chant de l'Assemblée dans sa paroisse.
Est-ce que nous pouvons, Flamine, tous l'accompagner par la prière ou peut-être nous joindre à cette messe d'ordination?
Exactement, tout le monde est invité pour accompagner Guy. Ce sera donc dimanche prochain, le 11 octobre à 16h, en l'église Notre-Dame de la Dalbade à Toulouse. Voilà. Et si on ne peut pas se déplacer, bien sûr, on est tous invités à l'accompagner pour ce beau ministère par notre prière.
Eh bien, merci beaucoup, Flamine Favret, pour toutes ces informations. Nouveau diacre permanent. On a compris, petite distinction avec les diacres en vue du sacerdoce. Nouveau diacre permanent, Guy de Bélair, ordonné bientôt le dimanche 11 octobre à Toulouse. Merci à vous, Flamine. À bientôt.
Merci, Isabelle. Au revoir.
L'air du temps avec Patrice de Planquette.
Bonjour à tous. Avez-vous lu la nouvelle encyclique Fratelli Tutti, tous frères, parue il y a 3 jours? Il faut vraiment trouver le temps de la lire, soit sur le site du Saint-Siège, vatican.va, soit en vous la procurant en librairie. C'est un texte salutaire. Il tombe en pleine actualité. Il fait la lumière sur ce qui ne va pas dans notre société et sur les moyens de changer les choses dans le bon sens. C'est une analyse lucide, très concrète, très proche de notre expérience quotidienne et pleine d'espérance à la fois humaine et théologique, car les deux peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement, on le comprend en lisant ce pape argentin qui parle clair et fort. Et en lisant Fratelli Tutti, je tombe par exemple sur le paragraphe 179. Écoutez, sur le plan mondial, la société a de sérieux défauts structurels qu'on ne résout pas avec des rapiécements ou des solutions rapides, purement occasionnelles. Certaines choses sont à changer grâce à des révisions de fond et des transformations importantes. Seule une politique saine sera à même de les conduire, en engageant les secteurs les plus divers et les connaissances les plus variées. De cette manière, une économie intégrée dans un projet politique, social, culturel et populaire visant le bien commun peut ouvrir le chemin. Fin de citation. Une économie intégrée dans un projet politique, social, culturel et populaire. Alors oui, cette idée d'intégrer l'économie dans un projet de société qui la transcenderait, qui la ferait servir à autre chose qu'à la domination de la finance, c'est le contraire de l'idéologie imposée au monde depuis 40 ans. Selon cette idéologie dite globale, c'est la société qui doit servir l'économie et l'économie doit servir la finance, laquelle ne doit servir qu'elle-même. Voilà comment on fabrique un monde antinaturel à tout point de vue, avec de lourdes conséquences sur notre vie privée et notre existence personnelle. Parmi ces conséquences, il y a l'isolement croissant des personnes, qu'elles soient mises à l'écart en raison de leur âge ou de leur infériorité sociale, ou au contraire, qu'elles se replient sur la défense aveugle de leur statut confortable dans une indifférence croissante envers les autres. Le résultat de l'idéologie actuelle, c'est l'émiettement de la société. Et le remède à cela, la planche de salut, c'est de redécouvrir l'amitié sociale, comme dit l'encyclique. Amitié sociale, le mot sonne bizarre dans une époque où les médias nous font baigner dans une ambiance de conflit de tous contre tous. Mais si l'esprit de fraternité a été chassé de la société séculière, qu'on ne s'étonne pas de le voir revenir sur les ailes du message du Christ. On ne peut que souhaiter le voir renouveler la face de la terre, comme dit le chant bien connu. À la semaine prochaine.
Radio Présence, aux portes du Tarn. 97.9.
On continue cette pause en musique avec Camille et son titre Rue de Ménilmontant dans une minute votre évangile dans l'ex-région Midi-Pyrénées.
Je rêve à toi, à mes heures perdues. Hélas, à ma porte ce matin, la rue est morte, l'hôtel est quoi, les volets rabattus.
À Millau, 106.5.
L'Évangile.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange : Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? L'ange lui répondit : L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu.
C'est le frère Pavel, prédicateur de ce rosaire 2020, qui va maintenant donner l'homélie. Il est actuellement le prieur du couvent de la province de Marseille, le couvent de noviciat de la province de Toulouse, et est aussi l'assistant, le socius en termes techniques, du frère Olivier de Saint-Martin, prieur provincial de la province de Toulouse. Pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes donc dans la basilique Saint-Pidice pour cette messe d'ouverture en cette fête de Notre-Dame du Rosaire.
Tous les rosaires, c'est le même rosaire. Les habitués le savent bien. Chaque année, nous revenons, nous mettons nos pas dans ceux de l'année d'avant pour venir à la grotte, pour servir, pour espérer. Le même pèlerinage du rosaire, avec les visages que je retrouve, les amis que je revois, les nouveaux que j'accueille chaque année, encore et encore. Et quand il me faut souvenir d'une année précise, j'hésite. Est-ce celle où il a beaucoup plu, mais il pleut chaque année à Lourdes ? Est-ce celle où j'ai été touché par la douceur de la Vierge ? Mais elle est toujours fidèle ? Est-ce l'année où le frère a si bien prêché ? Tous les rosaires, c'est le même rosaire. Et voilà, en pèlerinage du rosaire, à nul autre pareil. L'édition 2020, unique. Nous ne savions pas s'il serait possible. Nous le préparions dans l'espoir de vous retrouver. Et sans aucune assurance, sera-t-il ? Non pas sera-t-il comme celui-ci ou celui-là, mais aura-t-il lieu ? Et nous y sommes. ce pèlerinage en don de Dieu, désiré, inespéré, en commencement et en signe de la fidélité de Dieu. 1914, la seule année où nous n'avons pas pu nous retrouver pour prier ensemble. En 1939, à l'appel du directeur de l'époque, quelques centaines de pèlerins se réunissent à la grotte afin d'intercéder pour le monde tourmenté. 2020, nous voici ensemble, malgré l'épidémie, malgré la crise, malgré nos angoisses, et ces malgré sont nombreux, comme autant de marques de la mort et des ténèbres. Et là, dans ces eaux boueuses et incertaines, la parole de Dieu fait jaillir une source cristalline d'espérance, comme pour Bernadette à la grotte, comme au jour de la création. La parole de Dieu fait jaillir la lumière là où il n'y avait que vide et vague. Comme à l'Annonciation, le Seigneur dit « Voici, je fais toute chose nouvelle. Voici que je viens pour sauver mon peuple, Dieu avec nous. Aujourd'hui, je commence. » Au cœur de notre vie, de toute vie, aussi faible et insignifiante soit-elle aux yeux du monde, brille un appel de Dieu. Sois, existe, je veux que tu sois un ordre et une vocation. Vie, que la lumière soit, que ta lumière naisse et vienne au monde. Sans ta venue, le monde sera inachevé. Adviens. Sa parole créatrice nous a tirés du néant vers la vie. À tes propres yeux, tu te sembles insignifiant, mais ce n'est pas ainsi que Dieu te voit. Aux yeux du monde, tu passes pour inutile, mais ce n'est pas ainsi que Dieu t'aime. Pour lui, tu es désirable. Pour lui, tu es voulu. Et c'est pour cela qu'il te crée aujourd'hui même. Car si nous existons, c'est qu'à chaque instant, Dieu nous tire du néant. Sois, existe, tu es précieux à mes yeux. Moi, je peux placer ma valeur dans l'efficience. Je peux me croire important parce que j'ai du succès, ma réussite et mes projets, comme si j'avais à me justifier du fait d'exister. Et voilà qu'en un seul coup d'œil, tout cela est mis en suspens. Tes projets, tes déplacements, tes responsabilités, le monde qui tourne autour de toi, suspendu. Car le confinement cloue au sol non seulement nos avions, mais surtout notre prétention de tout maîtriser en courant toujours plus, en possédant toujours plus, en dépensant toujours plus et en oubliant cette source de notre être, la voix souveraine de notre Créateur, soit, existe. Arrête-toi un instant. Réfléchis. Que meure ton être factice et que revive ton souffle profond. Que s'arrête, ne serait-ce qu'un instant, ta course et que revive ton âme. Naître à neuf. Et maintenant alors, reprendre, recommencer comme avant, comme si rien n'était. C'est ce que j'essaie spontanément de faire. À la sortie de confinement, vivre comme si tout cela n'était qu'une étrange parenthèse. Mais puis-je oublier maintenant? Comment mon monde est fragile, comme il peut vaciller, que me restera-t-il? Ceux qui me sont confiés, ceux dont j'ai reçu la charge, la parole de Dieu restera, elle qui crée toutes choses nouvelles. La vie de l'enfant de Dieu, elle, ne passera pas. Ne crains pas, Marie. Le Verbe de Dieu prend chair dans le sein de la Vierge. Il habite son âme. Il réchauffe son cœur. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Cette œuvre de l'incarnation rédemptrice s'accomplit pour nous et il s'accomplit en nous. Quand, avec les grains du chapelet, je redis encore et encore, car tous les rosaires, c'est le même rosaire, les paroles de la salutation angélique, quand mystère après mystère, je médite encore et encore ce que Jésus a fait et subi pour notre salut, quand année après année, je viens à la grotte pour me tenir aux pieds de la Vierge bénie, que se passe-t-il? Ma vie, mon histoire se trouve rythmée par ces paroles. Ces événements du salut éclairent ce que je vis avec mes espoirs, mes craintes, mes doutes, mes nuits, mes jours, mes joies, mes souvenirs, mes projets. Tout trouve place dans cette parole que Dieu donne au monde. Tout trouve sa source en ce Dieu qui nous aime. Tout se trouve vivifié par ce salut qu'il accomplit en nous. La récitation du rosaire unit notre vie à celle de Dieu, fait passer celle de Dieu dans la nôtre, nous fait naître un enfant de lumière. Il régnera et son règne n'aura pas de fin. Jésus vient en ma vie et il y règne, car il sauve, il guérit, il console, il oriente ma vie si fragile, si fugace, dans ce monde si instable. Mais lui, il demeure. rocher inébranlable, il demeure et il m'accueille dans son cœur comme dans une grotte. De ce rocher où coulent sans cesse les paroles de la bénédiction. Viens, mon enfant, demeure dans mon mystère. Que ma vie soit ta maison, que mon cœur soit ton refuge, que ma mère soit ta mère. Le monde passe, l'amour de Dieu demeure. Tous les rosaires sont le même rosaire. Ce pèlerinage qui nous prend et qui nous amène dans le cœur de Dieu, qui nous place dans la source même de notre existence, soit, existe, je veux que tu sois. Et il nous donne la mission de témoigner devant les hommes de cette œuvre de Dieu qui nous a appelés de nos ténèbres vers son admirable lumière. Je t'ai créé pour que tu sois un enfant de lumière. Viens aujourd'hui retrouver ta naissance.
Présence à Montauban 93.3.
Le rappel des titres avec Luc Vidal-Giraud dans notre partie d'Occitanie.
C'est l'inquiétude de cette fin d'année. Quelles seront les conséquences économiques à moyen terme de l'actuelle crise sanitaire ? Elles sont déjà palpables. Entre perte d'emploi et chômage partiel, l'Occitanie a perdu près de 46 000 postes au cours du premier semestre. Outre l'aéronautique, les secteurs les plus touchés sont ceux de l'hébergement et de la restauration. L'Agence régionale de santé a présenté hier son bulletin bi-hebdomadaire sur la crise sanitaire en Occitanie. 15 décès supplémentaires ont été recensés en 4 jours. Les hospitalisations sont pour leur part en hausse dans la région avec 45 patients supplémentaires depuis le 2 octobre, dont 7 en réanimation. Nous l'annoncions il y a quelques jours, une vaste campagne de tests de vaccins vient d'être lancée en France. 25 000 volontaires sont en cours de recrutement. Le centre d'investigation clinique du CHU de Toulouse en accueillera un peu plus d'une centaine pour une campagne d'évaluation prévue entre novembre prochain et mars 2021. Airbus a dévoilé hier son nouvel avion d'affaires basé sur l'A220. L'appareil pourra parcourir une distance de 10 500 km et accueillir jusqu'à 18 passagers. 6 exemplaires de l'appareil ont déjà été commandés. La TOM des Pyrénées au lait cru vient d'obtenir le label IGP, indication géographique protégée. Cette labellisation intervient 25 ans après celle obtenue par la TOM au lait de vache pasteurisée produite, elle, par des industriels. La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales était en visite dans le Gers. Jacqueline Gouraud y a rencontré le comité local France Relance et évoqué son projet de loi 3D comme décentralisation, différenciation et déconcentration. Bisbille entre les deux principaux opérateurs de ski dans les Pyrénées. Le groupement NPI demande l'annulation devant le tribunal administratif de Pau de l'avenant qui prolonge la délégation de service public de la station de Saint-Lary au bénéfice d'Altiservice et ce pour une durée de 15 ans. Et puis l'équipe de football de Luznac en Ariège aurait pu accéder à la Ligue 2. Telle est la décision rendue hier du Conseil d'État. Il a confirmé la décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux de juin 2019 qui annulait la décision du Conseil d'administration de la Ligue professionnelle de football qui empêchait le Luznac Ariège-Pyrénées d'accéder à la Ligue 2.
À La météo, avant de vous laisser pour cet après-midi, retour du soleil avec quelques nuages, 17 degrés en moyenne. Demain matin, il ne va pas faire très chaud. 11 à Cahors dans le Gers, ainsi qu'à Tarbes, 12 dans le Tarn-et-Garonne. Et à Toulouse, l'après-midi, des éclaircies dans l'ex-région Midi-Pyrénées. Le mercure montera à 20 degrés dans le Lot, ainsi qu'à Auch et dans la Haute-Garonne, 21 pour les Hautes-Pyrénées et un petit 16 degrés au viaduc de Millau. Je vous souhaite un bon mercredi après-midi avec présence tout de suite le journal de Radio Vatican.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Le monde vu de Rome. Le journal de Radio Vatican.
Le pape François reprend son cycle de catéchèse sur le thème de la prière ce matin au cours de l'audience générale dans la salle Paul.